Oui. Allez, je retrouve mes notes. La Coupe du Monde a commencé. La Coupe du Monde a commencé. Ah, merci Bernard. Au moins, qui suit? La Coupe du Monde a commencé. Je ne regarde absolument pas le foot. Mais est-ce que vous vous rappelez du 12 juillet 1998? Ceux qui sont nés. Ceux qui sont nés. Et vous étiez où ce jour-là? La France joue la finale de la Coupe du Monde en 1998 contre le Brésil, les champions en titre, l'équipe de Ronaldo et tous les autres. Le monde entier, ou presque, donne les Bleus perdants ce soir-là. Vous en rappelez? Et dans le bus qui amène les joueurs à Clairefontaine au Stade de France, il y a un silence. Et dans ce silence, il y a une seule personne qui ne croit pas comme le reste du monde. Un seul homme qui ne pense pas comme les autres. Vous le connaissez, Didier Deschamps. Il dira plus tard dans une interview quelque chose d'étonnant. Dans ce bus et dans ce silence, je savais que cette finale ne nous échapperait pas. Pas dans les vestiaires, pas pendant l'échauffement, avant même d'avoir vu la couleur de la pelouse. Il le savait, dans son cœur. Et ce matin, je veux vous parler d'un homme dans la Bible qui a vécu avec cette même certitude pendant 40 ans dans le désert. Pas 40 minutes dans un bus, 40 ans dans le désert. Et cet homme s'appelle Caleb. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et on va lire Josué 14 à partir du verset 6. Vous allez l'avoir, voilà, juste derrière moi. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Yéphunné, le Kénizien, lui dit: Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour espionner le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant me voici âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphunné, et il le donna à Hébron, et lui donna Hébron pour héritage. Et c'est ainsi que Caleb, fils de Yéphunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Waouh, on a parlé de la foi. Merci Sylvain. 85 ans, quelle foi, non? Et vous vous rappelez, il y a quelques semaines, mois, on a parcouru Exode et on a suivi Moïse pendant assez longtemps. On a suivi son parcours. Et là, on a juste après Moïse et c'est Josué qui le succède. Et ce, dans le livre de Josué, qu'on lit ce texte. Et là, ici, c'est Caleb qui s'adresse à Josué. Caleb a 85 ans, les amis. Il aurait pu demander une vallée fertile, une bonne maison de retraite, une vie facile, quelque chose de bien mérité. 85 ans, c'est ce que j'aurais fait. Mais non, il demande la montagne des géants. Il demande une montagne avec des villes fortifiées. Il demande l'endroit que tout le monde redoute. À 85 ans, il demande quelque chose qui est impossible aux yeux de tous les hommes. Est-ce que vous savez pourquoi il voulait Hébron? Pas par hasard. Hébron, c'est là qu'Abraham a reçu la promesse initiale dans Genèse 12. Hébron, c'est là où sont enterrés Abraham, Isaac, Jacob. Et Caleb ne réclame pas juste une montagne, pas juste sa montagne. Caleb, il réclame la promesse que Dieu a fait 500 ans plus tôt. Du coup, quand je préparais ce message, je me suis demandé, explique-moi Seigneur, pourquoi du haut de ses 85 ans, moi du haut de mes 39, fatigué comme je suis, je veux de la facilité, mais lui du haut de ses 85 ans, il demande quelque chose qui paraît impossible. Et j'aimerais ce matin répondre à cette question avec vous à travers trois axes. La crainte, le désir et le courage. Vous êtes avec moi ? Ouais, c'est bon. 12 espions et 2 regards. On va revenir un petit peu en arrière. On va aller dans Nombre 13, au verset 1. Vous connaissez sûrement ce passage. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » C'est l'Éternel qui parle. Et déjà, il dit « Pour explorer le pays que je donne aux Israélites. » Les 12 espions vont espionner ce pays pendant 40 jours, ramassent des raisins énormes qu'on ne peut pas porter tout seul, ils ramassent des grenades, des fruits, et puis ils reviennent près de Moïse. Ils montrent les fruits du pays. Et au verset 27, ils font leur rapport. Qu'est-ce qu'on lit ? C'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Mais 10 des 12 espions continuent. Et qu'est-ce qu'on lit au verset 28 ? Mais le peuple qui y habite, par contre, il est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons même vu des fils d'Anak, des géants. 10 des 12 font ce rapport. Et ils grossissent le trait de ce qu'ils ont vu. Ils mentent. Tout clairement, simplement pour décourager. Parce qu'ils ont peur. Nombre 13, au verset 30, Caleb prend la parole. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter, combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Les 12 espions voient le même territoire. Les 12 espions voient la même chose. La même réalité. Les mêmes terres, mais il y a deux rapports complètement opposés. Les 10 espions ont regardé avec leurs yeux à travers leurs limitations, à travers leurs craintes, à travers leurs inquiétudes, nos propres forces contre les murailles, contre les forteresses, contre toutes ces choses qui sont là-bas. Et Caleb et Josué, eux, tous les deux, ont regardé avec leurs yeux aussi, mais avec le filtre de la promesse de Dieu. Et ce n'est pas une question de tempérament, ce n'est pas parce que les 10 étaient plus peureux ou moins courageux que Caleb et Josué. C'est juste une question de là où on pose le regard. Et comment est-ce qu'on pose le regard ? Est-ce que je pose mes regards sur les promesses de Dieu, sur ma vie ? Ou bien est-ce que je pose mes regards sur mes circonstances ? Et sur les circonstances de ma vie, sur les circonstances de mes inquiétudes, sur les circonstances de la saison que je suis en train de traverser en ce moment. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, Eric nous a parlé des inquiétudes, vous vous rappelez ? Eric, non, il n'est pas là. Eric, si tu nous entends, quand tu vas réécouter ce message, je te remercie pour ce message, Eric. Ça m'a apporté toute la semaine. Ça nous a apporté avec Nico toute la semaine. Les inquiétudes, la peur, les craintes sont contagieuses, les amis. Et elles réduisent notre vision. Mais surtout, les inquiétudes nous éloignent de l'essentiel. On lira dans Josué que le peuple d'Israël a choisi d'écouter les 10 espions, et pas Josué et Caleb. Et le résultat, c'est quoi ? Ils ont passé 40 ans dans le désert. On l'a dit, la peur est contagieuse, et la foi aussi. Mais ce jour-là, c'est la peur qui a gagné. Et j'ai envie de nous encourager ce matin à pas trop écouter ce qu'on entend. À pas trop écouter les gens qui sont autour de nous, qui ont peur, qui ont des craintes, qui ont des inquiétudes. Et Eric nous l'a dit, hein, pour être moins inquiet, c'est simple, il suffit d'éteindre la télé. C'est vrai, non? Si nous vivons gouvernés par la peur, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Mais je ne peux pas rentrer dans les œuvres bonnes que Dieu a créées pour moi. Si ce sont mes inquiétudes, mes craintes, mes peurs sur lesquelles je focalise mon regard. Alors entourons-nous de ceux qui marchent dans la foi et continuons à nous inspirer de tous ces héros de la foi, de tous ces héros de la foi qu'on trouve dans la parole. Caleb et Josué n'ont jamais laissé la voix des gens autour d'eux les retenir ou bien les ralentir pour rentrer dans ce que Dieu avait prévu d'accomplir. Pourtant, ils ont vécu la persécution. On a voulu les lapider. Ils ont subi les moqueries et 45 ans d'attente dans un désert pour une punition dont ils n'étaient pas responsables parce qu'eux, ils avaient vu ce pays qui découle de lait et de miel. Mais ces 45 ans dans le désert n'ont pas changé leur façon de penser. Et ça n'a pas diminué leur foi, au contraire. Parce qu'ils savaient qui ils étaient, ils savaient qui était Dieu. Et ils connaissaient la promesse de Dieu pour eux. Amen. Et je veux nous dire ce matin que nos circonstances, elles sont là. Nos saisons, elles sont là. Je ne connais pas vos circonstances. Je ne sais pas ce que vous vivez. Et bien sûr, on vit ces circonstances, on vit nos saisons et je suis personne pour les minimiser. Mais face à nos géants aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ces circonstances? Est-ce que j'adopte la position de ces 10 espions où je me décourage et je me focalise sur mes limites? Ou bien est-ce que je suis comme Josué et Caleb et je me rappelle des 3000 promesses qui sont dans la Bible? Moi, je vais vous faire une confession ce matin. Trop souvent, j'ai l'attitude des 10 espions. Et chaque jour, je demande à Dieu de me donner le cœur de Caleb, le cœur de Josué. Je voulais vous partager une petite histoire personnelle. Depuis toujours ou presque, pour ceux qui me connaissent, vous savez que Dieu a placé dans mon cœur quelque chose de fort pour l'armée, pour la police, mais particulièrement pour les forces spéciales. C'est quelque chose qui brûlait dans mon cœur et à travers tout mon parcours professionnel, j'ai entendu de nombreuses paroles décourageantes. Tu pourras pas, t'es trop jeune, t'es trop maigre, t'es trop tout ça, c'est trop dur, c'est réservé à d'autres. Mon propre supérieur me disait, dis pas trop fort ce que tu veux faire plus tard parce qu'on pourrait se moquer de toi. Puis tu sais, c'est mal vu. Et la raison était réelle, c'est vrai, c'était dur, bien sûr c'était dur. Sur le papier c'était vrai, mais leur découragement des fois était contagieux et certaines fois je baissais les bras et je me disais à quoi bon, de toute façon c'est vrai que moi j'y arriverai pas par mes propres forces. Et il y a ce verset dans Josué 1, verset 9 qui dit « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne te laisse pas effrayer car moi l'Éternel ton Dieu je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est mon fond d'écran. Des fois, il y a mes fils, des fois, il y a ma femme, mais souvent, c'est celui-là. Et dans les jours comme celui-là, dans les semaines, dans les saisons qui sont compliquées, je veux regarder mon téléphone et me rappeler de ce verset. Je serai avec toi. Prends courage. Dans mon parcours, j'ai décidé de ne pas écouter ces découragements. J'ai décidé de faire du tri dans mes relations et d'arrêter de m'entourer d'eux et de m'entourer de ceux avec qui je peux prier. De ceux avec qui je peux parler de ce sujet, de ceux avec qui je peux parler de ce qui brûle dans mon cœur, de ce qui a brûlé en tout cas à cette époque-là. Et à cette époque-là, la seule chose dont j'avais besoin, c'était d'avoir des gens de foi autour de moi, des gens qui marchent par la foi. Et même si effectivement toutes les raisons que les gens me donnaient autour de moi étaient valables, il y a une chose que tous n'avaient pas pris en compte. C'était le désir que Dieu avait placé dans mon cœur. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler sur cette deuxième partie. C'est le désir que Dieu place dans le cœur. Dans Josué 14, au verset 9, il dit « Ce territoire sera pour toi en héritage parce que tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. » 45 ans de fidélité d'un côté, mais aussi 45 ans de persécution, 45 ans d'attente. Alors oui, quand on regarde la fidélité, c'est beau. 45 ans, c'est long. Il y en a qui savent ici. 45 ans, c'est long. Mais le désir de Caleb, il reste intact parce que ça brûle dans son cœur. Pourquoi il ne change pas son désir ? Parce que ce n'était pas lui qui avait son propre désir. C'était Dieu qui avait placé ce désir dans son cœur. Et on pourrait croire qu'au bout de 45 ans, le désir peut s'éteindre petit à petit. Mais la clé de tout ça, c'est l'obéissance. L'obéissance est la condition pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Caleb avait reçu la parole 45 ans plus tôt et il l'avait gardé tout ce temps, jour après jour. Il a vu le pays avec les fruits. Il a vu le pays avec le lait et le miel. Oui, bien sûr, il a vu les forteresses, mais il a vu la promesse de Dieu de ses propres yeux. Il ne s'est pas plaint. Pendant 45 ans, il a obéi, il a patienté sans murmurer. Alors que cette punition n'était pas la conséquence directe de ce que lui avait vu, mais de la désobéissance du peuple. Et Caleb a servi fidèlement pendant ses 45 ans. Et pendant 45 ans dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait, Caleb ? Il a formé les générations qui allaient rentrer dans le pays promis. Parce que tous ceux qui, 45 ans plus tôt, avaient porté un mauvais rapport, aucun d'eux ne sont rentrés dans le pays promis. Et il dit « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. » Caleb demande l'impossible parce qu'il a reçu la promesse. Il n'aurait pas pu demander ça s'il n'avait pas vu, s'il n'avait pas reçu de Dieu cette promesse. Rien ne pouvait faire taire cette promesse dans le cœur de Caleb. Il a été fait pour ça. Il a été fait comme ça. Je voulais vous partager une image que j'aime beaucoup, c'est l'image du bateau et du port. Vous avez sûrement dû l'entendre déjà. Les ingénieurs qui construisent les ports pensent aux bateaux, aux tailles des bateaux, aux profondeurs des bateaux, pour les manœuvres, pour toutes ces choses-là. Mais les ingénieurs qui construisent les bateaux, eux, ne pensent pas aux ports. Ils pensent aux profondeurs des mers, aux vents violents, aux conditions difficiles, parce que les bateaux ne sont pas faits pour être au port. Les bateaux sont faits pour être en pleine mer. La destinée du bateau n'est pas dans la sécurité du port. Et bien c'est comme Caleb, les amis. Nous avons été créés pour la mer, pas pour le port. Nous avons été créés pour les impossibilités et pour gravir les montagnes. Amen. Nous n'avons pas été créés pour demander une retraite à 85 ans, mais pour nous emparer de ce que Dieu a promis dans sa parole. On a un autre exemple dans la Bible, David face à Goliath. David n'a pas marché vers Goliath, il a couru. Il ne courait pas vers le danger, mais il courait vers ce que Dieu avait prévu pour lui. Il savait que Dieu était avec lui, comme il était avec lui dans ses combats avec les lions, avec les ours. Et c'est comme ça que David le berger est devenu David le roi. Nous avons été créés pour relever des défis et pour marcher à contre-courant avec Dieu dans ce monde. On en a parlé ce matin. Avec les désirs qu'il place dans notre cœur et avec cette promesse qu'à chaque instant, nous avons cette assurance qu'il marche avec nous. Amen. Ce que Dieu fait dans une saison, c'est qu'il nous prépare pour celle d'après. Et on a beaucoup de témoignages dans cette église. Beaucoup de témoignages. Waouh, ma saison est compliquée. Ouais, tu te rappelles de celle d'avant ? Dieu te prépare pour cette saison. Et attention, mon message d'aujourd'hui, c'est pas « Sois fort et courageux et tu obtiendras ta promesse ». On n'est pas en train de parler de développement personnel. Pas du tout. On a cette promesse d'une vie éternelle. Et aujourd'hui, nous y avons accès et Pierre en a parlé. Parce qu'il y en a un qui a pris une montagne, Golgotha. Il est monté sur cette montagne. Il est monté sur cette croix. Il a donné sa vie. Il a pris ce péché pour que nous, nous soyons sauvés et pour que nous puissions avoir accès à ses promesses. Et c'est seulement quand j'accepte Jésus comme sauveur, comme Seigneur, que je peux accéder à toutes ces promesses. Mais Damien, tu nous parles des promesses, mais est-ce que je peux me saisir de ces promesses qui datent de plus d'il y a plus de 2000 ans ? Je vais vous lire un verset. Galates 3, verset 29. Si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Je pourrais arrêter mon message ici. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Donc on a parlé des peurs qui nous éloignent de l'essentiel, on a parlé du désir que Dieu place dans notre cœur. Maintenant parlons du courage que Dieu nous donne. Le courage, les amis, c'est un commandement, c'est pas une suggestion. Josué 1, verset 9, je l'ai déjà lu. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point, ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » L'Éternel est en train de dire ça à Josué. Josué, c'est un commandant, c'est un chef. Il a des batailles et des batailles derrière lui. C'est un général de guerre. Et pourtant, dans ce passage, trois fois l'Éternel va répéter à Josué, « Prends courage !» Accroche-toi. Même les plus courageux ont besoin d'être encouragés. Mais trouver le courage, ce n'est pas une option. Trouver le courage, ce n'est pas une option. C'est un ordre divin. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Josué 1, verset 7 à 8. « Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. » Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour observer et pour mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est un ordre. C'est un ordre. Le courage est lié à l'obéissance. Mais le courage, ce n'est pas l'absence d'inquiétude. Le courage, c'est la volonté d'avancer par la foi en face de mes peurs et en face de l'opposition. Le courage, c'est je mets ma confiance en Dieu. Je n'y arriverai pas seul. Je n'ai pas la capacité de le faire. Mais j'y vais quand même parce que je sais que j'ai Dieu avec moi. Romains 8, 31, vous connaissez ce verset. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. On le connaît. On le connaît, ce verset. Pourquoi tant de fois on refocalise, on remet nos yeux sur nos circonstances, sur nos inquiétudes, sur nos peurs ? Est-ce qu'on va manquer ? Est-ce que le message d'Éric était puissant la semaine dernière ? Il parlait des inquiétudes. On vous invite vraiment à le réécouter. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez l'écouter sur le site. Les craintes et les doutes sont inévitables, qu'on soit courageux ou non. Et la question, ce n'est pas « est-ce que je vais ressentir de l'inquiétude ?» La question, c'est « est-ce que c'est l'inquiétude qui va diriger ma vie ?» Ayons cette volonté d'avancer par la foi, en face de nos inquiétudes, en face des craintes, en face de l'opposition. Vous savez, si les espions n'avaient pas laissé la peur les gouverner, Le pays entier, le peuple entier serait rentré dans le pays promis. Alors oui, ça demande du courage de s'affirmer comme chrétien dans ce monde aujourd'hui. Alors oui, ça demande du courage d'élever ses enfants dans les voies de Dieu en 2026. Les parents le savent. Et oui, ça demande du courage de mettre en place une discipline de prière. Et pour ça, on vous y aide, on fait des zooms le mercredi matin. Ça demande du courage de quitter un emploi, de déménager, de tout quitter pour rentrer dans son appel. Ça demande du courage aussi de venir une heure plus tôt le dimanche matin pour préparer du café ou mettre des chaises. Ça demande du courage de sacrifier son temps pour servir Dieu. Diacre, ancien, responsable, peu importe, serviteur. Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Fortifie-toi, prends courage. C'est son ordre. Et son ordre vient avec sa promesse. Je serai avec toi partout, dans tout ce que tu entreprendras. Tout, tout, tout. Tout ce qui est conforme à sa volonté, bien sûr. Alors, où est-ce que je trouve tout ce courage? Je vais vous donner trois sources et puis je vais terminer avec ça. On trouve le courage dans les promesses de Dieu. Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, il n'y en eut pas une seule qui faillit toutes s'accomplir. Relisons les promesses. C'est ce qui donne du courage. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je suis avec toi. Romains 8, 28, c'est quelques exemples. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, on l'a dit tout à l'heure, qui sera contre nous? C'est quand tu relis les promesses que là, ton courage, il passe à un niveau au-dessus. Deuxième source, on trouve le courage dans la présence de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Partout, il est là. On l'a prié. On a eu des paroles ce matin. Il est avec toi. Il est là. Alors, comment être conscient de sa présence? La Pierre nous l'a dit ce matin. Prendre des moments de prière personnels ou en groupe, comme on a dit avec le Zoom du mercredi matin. Pas pour comparer nos prières, juste pour demeurer dans sa présence. C'est là qu'on trouve du courage pour affronter une nouvelle journée, une nouvelle semaine, une nouvelle saison. Alors demeurons dans sa présence. Et puis troisième source, de là où on peut trouver le courage, c'est dans l'amour de Dieu. On a parlé de l'amour ce matin. 1 Jean 4, verset 18. L'amour parfait bannit la crainte. Pas le courage, pas la force, pas l'endurance, l'amour. On pense peur d'un côté et courage de l'autre. Peur d'un côté, force, peur, détermination. Mais en fait, c'est peur et amour. La source ultime du courage n'est pas la force, c'est l'amour. Imaginez la force que Jésus a trouvée dans l'amour du Père pour aller à la croix. Et on le lit. On ne dit pas qu'il n'a pas eu peur. Si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, éloigne-la. Mais si c'est ta volonté, alors j'y vais. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ouvre un accès direct à cet amour. Et c'est cet amour qui te donne le courage. Et c'est avec ce courage que tu peux rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Je voudrais terminer avec ça. Caleb, il dit pas dans son passage, je veux bien essayer de prendre cette montagne. Il dit, donne-moi cette montagne. C'est une demande qui est certaine, c'est une demande qui est confiante, c'est une demande qui est ancrée dans 45 ans d'attente, dans 45 ans de fidélité, dans 45 ans d'obéissance, de service. Il savait qui il était, il savait qui était Dieu, il connaissait ses promesses. Et à 85 ans, s'il pouvait dire ça, c'est parce qu'il avait déjà la perspective de la vie éternelle. Il voyait déjà, il savait. Mais ce qu'il ne savait pas réellement, Caleb, dans ce qu'il était en train de faire, c'est que des siècles plus tard, c'est à Hébron que David a été couronné roi. Et c'est dans la lignée de David que Jésus est arrivé. Caleb ne demande pas juste une montagne, sans le savoir. Il est en train de poser la première pierre du chemin qui mène à Jésus. Amen. Alors gardons cette même attitude, l'attitude de Josué et de Caleb, pas les 10 espions. Bien sûr, on y repensera à tout ça, parce que c'est notre quotidien qui nous rattrape. Mais quand il y a quelque chose qui nous arrive, quand il y a une vague qui nous prend, basculons du côté Josué et Caleb. Team Josué et Caleb. Clairement, basculons ici. Et face aux géants, face aux villes fortifiées qui se dressent devant nous, marchons avec assurance, parce que nous avons Dieu avec nous. Et oui, on parle de géants, on parle de villes fortifiées, mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas de villes fortifiées. Mais dans votre quotidien, dans notre quotidien, chacun sait de quoi je suis en train de parler. Entourons-nous de ceux qui voient eux aussi les promesses de Dieu dans nos groupes de vie, dans nos groupes de croissance, dans nos cultes le dimanche, dans nos agapes, dans ces moments-là où en fait on se retrouve ensemble pour regarder vers Jésus. Et puis finalement, à travers ce que nous avons évoqué, retournons jour et nuit dans sa parole pour nous imprégner des promesses de Dieu. Demeurons dans sa présence. Et surtout, par-dessus tout, rendons-lui grâce continuellement. Pourquoi ? Son amour immense. Amen. Soyez bénis.